la majorité des jeunes, ils ne connaissent pas la religion. Et quand ils rentrent en prison, ils commencent à chercher la religion. Alors, si on les laisse tout seuls, ils vont tomber dans les dérives.
La pire des choses, ça reste l'étiquetage. La pire des choses, c'est de considérer qu'il y a des personnes types qui peuvent passer à l'acte, qui peuvent se radicaliser et d'autres non.
Il n'existe zéro alternative à la déradicalisation. La plupart des jeunes djihadistes vont sortir de prison, donc il vaut mieux être sûr qu'ils ont déradicalisé.
Même si ce n'est pas systématique, nombre de terroristes sont passés par la case prison et ont souvent, dans cet univers clos qui suit des règles bien particulières, basculé dans le djihadisme au contact de leurs camarades de cellule. Le phénomène n'est pas nouveau. Khaled Kelkal, qui le 25 juillet 1995 posa une bombe dans la station du RER Saint-Michel à Paris, en est un bon exemple. C'est en prison qu'il s'est mué de petit caïd en combattant du GIA. Plus récemment, Hamidi Koulibaly, les frères Kouachi et les deux frères El Bakraoui, qui viennent d'endeuiller Bruxelles, ont tous été incarcérés avant de commettre leurs crimes. Comment cette radicalisation djihadiste qui débouche sur des actes d'une violence extrême est-elle perceptible en prison? Peut-on détecter ces comportements et les prévenir? Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 80 millions d'euros pour la pénitentiaire. Plus de surveillants, plus d'agents du renseignement pénitentiaire, plus d'éducateurs aussi et plus d'aumôniers musulmans. Il y a urgence, la France rémunère 500 aumôniers catholiques pour les prisons et moins de 200 aumôniers musulmans, alors que l'islam est de loin la première religion des détenus. Plusieurs quartiers sont aussi en train d'être créés dans 4 prisons françaises pour regrouper les individus poursuivis pour faits de terrorisme. L'expérience commence à peine et la France accuse un grand retard dans ce domaine. Radicalisation en prison, les clés de la détection. C'est un reportage signé Florence Sturm. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité ce soir David Valla, qui a passé 4 ans et demi en prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Il faut dire que depuis vous êtes sorti des griffes du djihadisme et vous allez publier dans 15 jours, le 13 avril exactement, Terreur de jeunesse, ouvrage édité par Kalman Levy. Et puis nous avons également invité Géraldine Blin. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de projet et le projet que vous dirigé, c'est celui de la lutte contre la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire. Et nous sommes bien sûr ce soir avec Florence Turm. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
On va parler avec vous de la radicalisation en prison et sur un sujet comme celui-là, eh bien il faut faire attention aux mots que l'on choisit.
Oui, je dirais à commencer par le principal, le mot radicalisation, tellement passé dans le langage courant qu'il est utilisé le plus souvent globalement, sans précision, sans adjectif supplémentaire alors qu'il en mériterait pour éviter à la fois approximation et amalgame. On ne peut pas mettre sur un même niveau la radicalisation religieuse, la radicalisation islamiste, la radicalisation djihadiste, la radicalisation violente. C'est bien plus qu'une simple précaution oratoire, d'autant qu'un mot en appelle un autre, par exemple conversion ou encore bien sûr déradicalisation, une formulation souvent très décriée par les spécialistes qui interviennent eux-mêmes sur ce terrain-là et qui en l'occurrence préfèrent parler soit de désengagement, de contre-discours, de désembrigadement, ce qui montre bien par ailleurs les limites des expériences encore récentes menées dans ce domaine, l'impossibilité aussi de tirer un bilan digne de ce nom, faute du recul nécessaire.
Vous êtes allée, Florence, à la rencontre de ceux qui sont justement au contact des CDD détenus en voie de radicalisation, on va employer le terme. Le reportage se déroule à l'ENAP, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire.
Intervention en cours coursive, bâtiment B.
Bonjour, vous avez de l'argent, des bijoux sur vous? Videz vos poches, enlevez tout ce qui est de valeur. Vous avez une montre, de quelle marque? Elle n'a pas de valeur? Vous pouvez la garder. Une signature ici, s'il vous plaît.
C'est votre première fois?
Ouais.
Allez, ça va aller.
Moussa, je suis d'origine malienne. Quand je suis arrivé, j'étais sans situation, j'étais sans papier et tout. Après, j'ai été naturalisé français. La France m'a accepté, la France m'a donné une chance que mon propre pays ne m'a pas donnée. Donc, je veux lui rendre l'appareil. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire quand même un boulot d'utilité publique, de servir ce pays qui m'a donné ma chance, au fait. C'est pour ça que je suis dans l'administration pénitentiaire. Je peux apporter quand même ma pierre à l'édifice. Et c'est une fierté pour moi. Moi, je suis musulman, pratiquant. Il y a islam. Islam, il ne faut pas que les gens confondent tout. Donc, c'est ces gens-là qui font ces bêtises, ces conneries, se servent de l'islam pour commettre des actes ignobles et intolérables. Voilà, c'est tout.
Et ce discours-là, vous savez que si vous êtes surveillant, peut-être qu'à un moment, vous allez être amené à le partager avec des détenus, peut-être.
Il y a partout des règles à respecter. Donc, moi, de toute façon, en prison, j'ai travaillé avec le corps de procédure pénale. On ne va pas parler de religion, non.
À 35 ans, Moussa fait partie de la dernière promotion à avoir intégré l'ENAP, l'École nationale pénitentiaire d'Agen, après avoir réussi le concours de surveillant. Dans le cadre du PLAT, le plan de lutte contre le terrorisme annoncé en janvier 2015, le ministère de la Justice a lancé une nouvelle campagne de recrutement. Plus d'un millier d'emplois supplémentaires créés, 3 promotions attendues en 2016 au lieu de 2. L'ENAP accueille déjà chaque année 2000 personnels en formation initiale et 3000 en formation continue. Philippe Cléroult et Virginie Pavisa sont chargés de la communication en interne.
L'école dispense une formation évidemment professionnalisante parce qu'on forme au métier de l'administration pénitentiaire. C'est une formation qui se fait sur le principe de l'alternance. Nos élèves, quelle que soit la durée de leur formation, sont présents une partie sur le site et vont sur des périodes de stage en milieu ouvert comme en milieu fermé. Le stage étant partie intégrante de leur formation. Et sur la partie ENAP, on est à la fois sur de l'apprentissage théorique qui permet l'acquisition des fondamentaux, des notions de droit, des notions de criminologie, de psychologie, et à la fois sur une dimension très pratique avec des cours de secourisme, des cours de technique d'intervention et de menottage, des activités sportives, du tir, des activités liées à l'intervention sur un feu en cellule qui fait partie du paysage pénitentiaire. Voilà, tous ces gestes professionnels qui sont dispensés au bâtiment de simulation permettent l'acquisition, avec le droit à l'erreur, parce qu'on est à l'école, de certains gestes professionnels essentiels pour le futur de nos jeunes agents. Donc là, en fait, on a effectivement le bâtiment avec les salles de cours au rez-de-chaussée, les bureaux, le restaurant universitaire, la ferme de trinque, le gymnase, le stand de tir, et là, on est devant le bâtiment de simulation.
Vous avez des reconstitutions d'une cellule, d'une coursive. Et dans ce cadre-là, vous avez des formations dites de simulation, qu'elles soient opérationnelles, quand par exemple ils vont faire des techniques d'intervention, lorsqu'un détenu se rebelle, etc. Et vous avez aussi des techniques liées à des comportements psychiatriques particuliers ou par exemple à un comportement suicidaire d'un détenu. Alors on fait intervenir actuellement des acteurs qui jouent ces rôles-là très très bien. Et comme ça, on place l'élève en situation afin de voir comment il va réagir. Et puis évidemment, après, le formateur débriefe, explique, ils reviennent un peu sur la scène, etc.
Et les sujets sur la radicalisation vous intéressent depuis combien de temps? Est-ce que ça a été dès le début initié ici ou pas?
En fait, le terme radicalisation apparaît depuis quelques années face aux événements qui touchent le pays. Néanmoins, l'école n'a pas attendu les événements pour former nos élèves, nos stagiaires à toutes ces questions à travers des thématiques que sont la compréhension des religions, la religiosité en détention, etc. Ça a toujours, qu'est-ce que la laïcité? Enfin, on pourrait vous les décortiquer à chaque fois, ce sont des thématiques qui approchent d'une manière ou d'une autre, l'emprise mentale par exemple d'une manière générale, sans forcément faire un focus sur la radicalisation islamiste, etc. Ça faisait déjà partie des enseignements, depuis toujours, et avec quand même des approches assez poussées. Aujourd'hui, on a d'autres moyens, donc ça a été développé, on renforce un dispositif qui était déjà mis en œuvre. L'idée étant non pas de faire de chaque surveillant un spécialiste, mais de tous les sensibiliser à ces questions.
J'ai le privilège et le plaisir d'intervenir à l'ENAP sur les thématiques de l'islam et les phénomènes de radicalisation liés à l'islam.
Pour cette session dédiée à la détection de la radicalisation, 3 catégories de personnel ont pris place durant 3 jours dans l'amphithéâtre Falière. Les lieutenants pénitentiaires, les DPIP, directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, et les plus jeunes du groupe, frais et moulus de l'université ou de Sciences Po, futurs directeurs des services pénitentiaires, comme Lisa Girardin ou Anthony Froidefond, susceptibles de prendre un jour en main une maison d'arrêt ou une centrale.
Alors déjà, la première chose à dire, c'est que désormais, cette appréhension de la radicalisation, elle est pluridisciplinaire. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Évidemment, nous laisserions passer des éléments clés. Et cette pluridisciplinarité, avec justement les représentants du culte, un certain nombre d'acteurs, comme les psychologues, comme les personnels de surveillance, qui sont d'ailleurs en première ligne, est absolument indispensable pour détecter, prévenir ces phénomènes de radicalisation en détention.
Vous pensez que votre mission est quelque chose qui a évolué par rapport aux missions des promotions précédentes ou de ceux qui sont en poste déjà depuis plus longtemps que vous, ou finalement c'est juste un autre élément qui s'est greffé?
Je pense que c'est l'immixtion de l'actualité dans notre formation, qui d'ailleurs était très active pour prendre en compte cet aspect-là. Mais non, ça ne change pas fondamentalement notre mission, qui est l'exécution de la peine, la préservation d'un certain nombre de droits et de prérogatives de la personne placée sous main de justice. Certes, c'est désormais une thématique prégnante qu'il faut désormais intégrer à l'ensemble des autres thématiques que nous avons à prendre en charge.
Et en même temps, cette thématique, elle est pleinement intégrée dans la prise en charge de la personne, enfin, notamment quand on réfléchit au sens de la peine, quand on travaille avec la personne en fonction des différents services de prise en charge, sur le sens de la peine, sur le passage à l'acte. Enfin, des personnes qui seront notamment là condamnées pour terrorisme, pour acte de terrorisme ou pour apologie du terrorisme, ben, cette dimension-là, elle est déjà prégnante dans le travail qu'on va faire sur la peine, sur le passage à l'acte. Donc oui, il va y avoir, enfin, ce que disait Antonin, ça se rejoint au final. L'actualité va jouer sur peut-être sur quelque chose de plus prégnant parce que ce sera plus présent dans les esprits, mais en même temps ce sera une part entière de notre métier qui est déjà exercée par l'ensemble des personnels pénitentiaires en fait.
La formation n'a pas favorisé les échanges intergroupes et le mélange entre les différentes catégories de personnel. Les lieutenants par exemple ont resserré les rangs sur les bancs du haut de l'amphi. Chemise bleu clair et pour certains cheveux poivre et sel, Ludovic Quiro et Dominique Mille ont chacun plus de 25 ans d'expérience d'encadrement. Alors, cette question de la radicalisation qui nous occupe depuis 3 jours, est-ce que c'est une question nouvelle pour vous?
Pour nous, non. Pour moi, personnellement, non. Je l'ai déjà abordé au point de vue des maisons centrales dès les années 90, où on avait déjà des personnes détenues qui étaient dans les mouvances par le biais notamment des attentats du début des années 90. Donc c'est pas un problème nouveau. Il est nouveau parce qu'il a été mis en exergue par les attentats récents. Mais néanmoins, l'administration, elle s'est quand même inquiétée bien en amont de ce sujet. Après, maintenant, il est beaucoup plus prégnant maintenant, effectivement. Et il y a tout un système qui est mis en place sur les identifications et le suivi de ces personnes.
Vous estimez que vous êtes suffisamment armé, entre guillemets, pour détecter et ensuite lutter contre la radicalisation?
Je pense qu'on tend vers une certaine amélioration et harmonisation des systèmes de détection. Il y a des initiatives locales, tout comme les quartiers dédiés qui sont mis en place. Toute expérimentation, elle est bonne à être mise en place et après à tirer les enseignements de ce qu'on peut mettre en place et généraliser au point de vue national.
Alors si on veut être plus concret, pour vous, est-ce que c'est évident de vous dire tel détenu, tiens, il est en train de se radicaliser ou tel détenu, il est radicalisé?
C'était beaucoup plus facile à mon sens dans les années 90 parce que les gens étaient facilement identifiables. C'est beaucoup plus ténu maintenant puisque les nouvelles générations de personnes détenues ont assimilé les techniques de communication, les techniques de dissimulation et bien évidemment ça nous pose énormément de soucis.
C'est-à-dire que les comportements ne sont pas forcément identifiables dans les prisons?
Les représentations qu'on pouvait avoir au début, le barbu qui va se rendre à la prière, voire faire des prières collectives, on n'est plus dans cette logique. C'est même assez anachronique maintenant. On est plus dans un système de dissimulation. Les gens sont rentrés dans le flot des personnes et forcément, pour nous, c'est beaucoup plus difficile à détecter.
Quel est votre point de vue sur ces questions-là, Dominique?
Mais écoutez, je rejoins tout à fait mon collègue, puisqu'on a à peu près la même expérience dans l'administration pénitentiaire. Alors maintenant, on parle beaucoup de radicalisation, mais avant, on parlait beaucoup de renseignement, puisqu'on avait quand même les Basques, les Corses, avec le terrorisme. Donc on parlait pas de radicalisation, mais plus de renseignement. Donc là, je rejoins aussi mon collègue sur tout ce qui vient de se dire, puisque dans les années 89-90, il n'y avait pas ce phénomène en plus de cette culture en prison. Il y avait beaucoup moins de personnes islamistes, on va dire, hein, ou musulmanes plus exactement, en prison.
Est-ce qu'on peut On va utiliser le mot avec des pincettes, mais est-ce qu'on peut déradicaliser quelqu'un en prison, ou en tout cas commencer à déradicaliser quelqu'un en prison?
Nous, on l'a vu sur les 3 jours d'intervention, on va être plus sur des désengagements que des radicalisations. Voilà. On est dans un état laïque et il ne faut pas l'oublier. Les gens ont le droit de l'exercice de leur culte. Après, il faut qu'ils soient encadrés. La question première, c'est ça. Est-ce qu'ils sont vraiment bien encadrés et suivis?
Est-ce que c'est difficile de ne pas stigmatiser? Parce que le mot a été employé à plusieurs reprises au cours de la formation. Entre le détenu qui pratique une religion de manière accentuée et puis celui qui effectivement est susceptible de verser dans la violence.
Nous ne sommes pas dans le jugement, on est là pour faire du repérage et essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Mais on n'a pas à juger la personne pour pourquoi elle est musulmane, pourquoi elle est chrétienne, pourquoi elle est juive. Après, chacun a son culte.
En octobre 2014, le directeur de la prison de Fresnes décide de regrouper une vingtaine de détenus considérés comme des islamistes radicaux poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Initiative controversée et jugée potentiellement dangereuse par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. L'administration pénitentiaire, elle, vient d'ouvrir en janvier dernier les premières unités dédiées à Fresnes, Osny et Lille, programme de détection et de prise en charge des prisonniers radicalisés. Louise Sabarly est coordinatrice de la lutte contre la radicalisation à la direction interrégionale de Paris.
Elle combine à la fois la gestion de la détention à titre sécuritaire et prévention du prosélytisme, mais aussi programme de prise en charge, c'est-à-dire travail vraiment proactif en termes de désengagement et de prévention de la récidive. Ça, c'est vraiment le point important, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire de toute façon de manière beaucoup plus large pour toucher le public le plus large possible et pas seulement intervenir une fois qu'il y a eu un passage à l'acte ou un commencement de passage à l'acte et donc de la prévention de la récidive, mais aussi de la prévention tout court. Éviter que l'ensemble de la population pénale soit susceptible de se radicaliser et de s'engager dans ce processus-là.
C'est un vrai risque ?
Oui. Oui. On l'a vu sur les différents attentats, actes ou tentatives. On a un public qui, de toute façon, de par son profil socio-économique, son parcours délinquant, est fragile et vulnérable. Et ils sont particulièrement vulnérables face à des personnes qui peuvent venir leur proposer un projet de vie qui va les structurer, même si c'est dans le mauvais sens, qui va les structurer, qui va leur proposer de rejoindre un groupe, une culture, et d'être valorisés d'une certaine façon.
Vous êtes capable aujourd'hui de lutter contre cette contagion ?
On essaye. C'est pour ça qu'on a fait le choix justement du regroupement, en tout cas des personnes qui étaient repérées comme posant problème de prosélytisme ou d'influence, d'emprise sur les autres détenus. Pour certains d'entre eux, ils vont être isolés et regroupés. Pour d'autres qui sont vulnérables, on veillera à leur environnement en détention, justement pour les protéger eux aussi. Donc on met vraiment l'accent sur l'évaluation des personnes que nous prenons en charge pour faire la part des choses entre ceux qui ont une influence néfaste, ceux qui subissent une influence néfaste et de leur permettre la prise en charge qui soit la plus adaptée. On commence à avoir des premiers retours qui nous donnent petites idées d'ajustements à faire ou d'options qui sont plus pertinentes que d'autres. On est effectivement très humble et on ne saura réellement l'efficacité de ces programmes ou dans quelle mesure ils sont efficaces. Je pense qu'ils le seront, mais à voir à quel niveau d'ici à minima quelques mois.
Regarde nos frères en Irak et en Palestine. Ils se battent comme des lions. Bats-toi comme un lion. Montre que tu es un homme. Il faut mettre la peur dans le cœur des mécréants.
À Agen, dans le cadre de la formation, l'ENAP diffuse un film pédagogique mettant en scène plusieurs profils. L'école fait également appel à des intervenants extérieurs avec des modules qui intègrent la laïcité, l'approche des religions et la pratique des cultes, mais aussi la géopolitique de l'islam. Sid Abdelawi, psychologue et expert auprès des tribunaux, intervient lui sur les processus d'emprise et les signes extérieurs de radicalisation.
Alors la première des clés, c'est celle de la connaissance. Donc comprendre que c'est un phénomène complexe et qu'il convient de ne pas tomber dans ce fameux causalisme, à savoir il a un comportement X, donc forcément il va avoir un fonctionnement Y. Donc ce type de logique causaliste est pour moi dangereuse, les amener aussi à discerner, à distinguer ce qui relève de la pratique religieuse, on va dire classique, communément admise, et ce qui relève finalement d'une dynamique de rejet, une dynamique d'opposition, de rébellion, voire d'auto-exclusion, pour ne pas dire une dynamique suicidaire qu'on retrouve chez le radicalisé violent.
Il y a des points clés que vous pouvez préciser en étant plus concret, plus pragmatique encore ?
Le clivage est très souvent à l'origine de cette entrée dans la radicalisation violente. Et concrètement, l'idée, c'est d'être dans une écoute non jugeante, pour pouvoir créer les conditions du partage de l'information. Là, je parle des cas où la personne peut être dans une phase, dans une crise de radicalisation. Et cette crise de radicalisation, concrètement, va durer entre 4, 6 et 8 semaines. Je peux très bien faire l'analogie avec la crise suicidaire. Si on n'intervient pas pendant cette crise, si on n'adopte pas les bons comportements, et l'écoute compréhensive est un des comportements que l'on promeut, hein, pour pas qu'il y ait de dérive ou tout simplement de manquement même. La pire des choses, ça reste l'étiquetage. La pire des choses, c'est de considérer qu'il y a des personnes types qui peuvent passer à l'acte, qui peuvent se radicaliser et d'autres non. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, faire une photographie d'une situation en se disant « bon, bah, lui, il a toutes les caractéristiques pour se radicaliser », cela peut aider, effectivement, hein, ça c'est très important. Mais quand la personne est déjà radicalisée, il est important d'essayer de comprendre, en fait, si cette radicalisation est une radicalisation de type rigoriste, sans plus, en fait, ou si c'est une radicalisation qui est au service d'un projet de remise en question à la fois de soi, de son environnement, de la société dans laquelle il évolue et dans laquelle il trouve différents griefs, différentes formes d'injustice qu'il cherche à combattre au travers de sa radicalisation violente.
Détecter, c'est facile ou on risque aussi des amalgames si justement on n'a pas cette connaissance de la religion notamment?
Vous avez absolument raison, et c'est un des premiers objectifs que j'exprime quand je fais mes formations.
Guy Trollier, formateur interculturel, spécialiste de l'islam et des phénomènes de radicalisation.
C'est de dire qu'il y a avant tout et d'abord un apport de connaissances, en l'occurrence de connaissances de l'islam, voire des islams, parce que c'est un raccourci que de parler de l'islam. Et que donc, fondamentalement, le fait qu'il y ait aujourd'hui des formations qui sont dispensées rassure le personnel que finalement on s'occupe d'eux, que finalement on se soucie de leurs préoccupations et qu'on va leur donner des outils. Sauf que, deuxième temps, il ne faut pas se leurrer, les outils ne vont pas être des boîtes et des outils qui vont leur permettre de solutionner et de faire ce qu'on leur demande, à savoir détecter et éventuellement déradicaliser. Parce que on risque de faire des amalgames. La connaissance doit amener une deuxième étape ou une deuxième posture qui est celle de pouvoir éventuellement entrer dans une relation avec l'individu qui permettrait éventuellement de détecter ou de savoir s'il y a un risque d'évolution vers un acte de violence qui, lui, à ce moment-là, relèverait de cette radicalisation dont on a peur et qu'on essaye de traiter.
Pour autant, vous avez quand même quelques outils à donner pour comprendre la différence justement entre un musulman qui va vers une pratique religieuse, on va dire plus assidue ou plus radicale, et ce que vous appelez, je crois que vous préférez le terme fanatisme.
Oui, absolument. Bien sûr. Alors, jusqu'à maintenant, on peut, et d'ailleurs moi-même, quand je parle de ces signes, entre guillemets, de possibles radicalisations, bien évidemment, je mets en avant tout ce qui peut tourner autour de la tenue vestimentaire, du durcissement de la pratique du licite et de l'illicite, de la pratique des 5 prières dans la journée, éventuellement de la barbe, éventuellement, à force de prier et de se prosterner et d'avoir le front collé au sol, cette tache qui finit par apparaître sur le front. Tout cela nous dit quoi ? Nous dit qu'effectivement nous avons là affaire à une personne qui est fervente, qui est pratiquante, qui veut être dans le souci de l'application stricte de la règle. Au-delà, est-ce qu'elle représente un danger ? Est-ce que potentiellement elle peut devenir terroriste ? Je crois qu'à partir de là, il y a peut-être d'autres clés, d'autres regards, tels que par exemple d'un psychologue, qui pourrait éventuellement faire réfléchir sur la possibilité d'un acte de violence que pourrait entreprendre cette personne et à laquelle elle pourrait être sujette.
Autrement dit, les personnels pénitentiaires eux-mêmes ne peuvent pas faire tout le travail tout seuls.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu une bonne démarche au niveau de l'administration pénitentiaire de recruter du personnel, d'horizons divers et variés, d'expériences diverses et variées. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comment? Selon quel protocole? Pour atteindre quel objectif? Ça, je pense que ça reste encore à mettre en place et c'est pas une mince affaire.
Et puis, dans la partie détection, il y a aussi ce que l'on connaît de plus en plus maintenant chez, cette fois, les fanatiques, c'est le principe de la taquilla.
Oui, si on ne connaît pas ce principe, on va passer à côté de beaucoup de choses. L'individu qui se base sur la taquilla, qui se base sur la ruse, la hila, va se fondre dans la masse au point où il va même consommer de l'alcool, voire manger du porc, parce que dans son cœur, tel qu'il est dit dans le Coran, Dieu sait quelle est la profondeur et la réalité du corps, et qu'il fait cela pour la juste cause, la cause de Dieu. Et que donc, tout ce qu'on risque de mettre en place aujourd'hui risque de s'avérer totalement inutile dès l'instant où l'ennemi va adopter cette totale discrétion, voire se fondre et avoir les mêmes comportements auxquels on ne pourrait pas penser qu'il serait un fervent pratiquant, alors qu'il le fait dans l'esprit de sa mission.
Salam mon frère. Salam Hamza.
Un dissimulateur adepte de la taquilla, un fondamentaliste, un simulateur qui pratique un islam de façade et d'opportunité, ou encore un prisonnier violent et complotiste, susceptible d'embrigader ses co-détenus, ce sont quelques-uns des profils mis en scène dans le film réalisé en interne par l'ENAP.
Tu fais une partie du chemin qui te mène à Dieu et tu t'arrêtes au milieu. Pense au pilier de notre foi. Remets-toi à la Sunna et au Coran.
Et pour contrer le phénomène des imams autoproclamés en détention, le plan de lutte antiterroriste prévoit également le recrutement de 60 aumôniers musulmans supplémentaires. Ils sont actuellement 3 fois moins nombreux que les aumôniers catholiques, par exemple, alors que les besoins sont évidents, souligne Si Mohamed El Gamrasni, aumônier régional de Toulouse.
C'est normal, mon frère, tu dis et je fais.
Il y a une amélioration, mais il y a un manque. Il y a un manque. Parce que la population musulmane aujourd'hui représente 60% dans les maisons pénitentiaires.
Vous pouvez m'expliquer en quoi consistent vos interventions en prison?
La majorité des jeunes, ils ne connaissent pas la religion. Et quand ils rentrent en prison, ils commencent à chercher la religion. Alors, si on les laisse tout seuls, ils vont tomber dans les dérives. Alors, nous, on est là pour intervenir, pour s'orienter, pour conseiller, pour discuter, pour aider, et voilà.
Vous êtes une sorte de rempart?
Oui. Pour la radicalisation, oui. Oui, et les intégristes, oui.
Dans la prison, est-ce que vous avez été confronté justement à des situations de jeunes que vous pensez pouvoir aller vers une forme de dérive?
Quelques-uns, oui. Vous savez, quand j'ai débuté à Muret avant, là, bon, il y avait quelqu'un qui proclamait imam, il voulait faire l'imam, guider la prière et tout ça, mais sans connaître la religion musulmane. Et après, quand je suis arrivé, bon, j'ai commencé à parler avec lui, bon, il est revenu sur le bon chemin, et ça va. Il faut les convaincre, si vous avez, et c'est pour ça que moi je dis, un aumônier musulman doit avoir les compétences dans la religion musulmane. Et s'il a les compétences, il peut convaincre. Alors, si on n'a pas le savoir et on n'a pas la compétence, on parle dans le vide, quoi.
Vous estimez que vous avez un rôle à remplir pour stopper ces phénomènes, ou en tout cas essayer de les contrôler, ces phénomènes de radicalisation?
Vous savez, la présence d'un aumônier dans les maisons d'arrêt est très importante pour les détenus, est très important pour la France aussi.
Les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui interviennent en prison mais aussi en milieu ouvert auprès des prisonniers ou des anciens détenus, se retrouvent aujourd'hui en première ligne. Une mission de plus parmi celles qui composent le quotidien de Laurence Marliot et Pauline Charles, toutes les deux désormais directrices. Est-ce que vous avez été confrontées déjà quand même à des situations de radicalisation, vous, dans la région dans laquelle vous travaillez?
Oui, parce que j'intervenais sur un secteur de zone urbaine sensible, à Trappes, dans les Yvelines. Donc du coup, forcément, j'ai été confrontée à ce phénomène, ce problème dit de radicalisation. Depuis quelques années, en milieu ouvert, donc des personnes qui n'avaient pas forcément été détenues auparavant. Une des personnes ne l'a d'ailleurs jamais été. Et qui ont été condamnés de manière différente, ou pour acte de terrorisme, ou alors pour un type d'infraction qui n'avait rien à voir dans son qualificatif avec le terrorisme, mais qui était en lien avec un départ en Syrie. Mais c'est vrai que ce qui a été assez compliqué, c'est de comprendre tous ces mécanismes et de pouvoir intervenir toujours avec le souci que nous avons dans les SPIP, qui est l'individualisation de la peine.
Comment dialogue-t-on avec une personne concernée à ce niveau-là? Est-ce que c'est la même chose, globalement, la même approche, ou pas du tout? Pas du tout, vous avez l'air.
Alors, il est très important d'être formé parce que c'est un public particulier. Comme j'ai fait des formations spécifiques pour la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel, je me suis formée pour la prise en charge de ce type de public-là. Ce sont des entretiens qui, en général, par rapport à la globalité, sont plus longs qu'avec les autres personnes, parce que moi, à chaque fois, ils ont donné lieu à débat avec la personne condamnée par rapport à l'infraction, par rapport à la contrainte et au suivi judiciaire qu'ils vivent souvent quand même très mal, parce que parfois ils sont aussi convoqués assez régulièrement par la DGSI. Donc toutes ces spécificités-là, toute la lourdeur aussi de la contrainte judiciaire qu'ils subissent se ressent forcément et se reporte forcément sur nous lors des entretiens au SPIP.
Il faut que nous soyons formés à la détection. Mais il ne faut pas que ça obère l'ensemble des prises en charge des publics dits difficiles dans un milieu contraint ou pas. La prison en est un, mais il y a énormément de publics suivants en milieu ouvert qui ont un risque de radicalisation important. Donc il ne faut pas que ça obère l'ensemble des autres mesures et que nous avons à mettre en œuvre auprès des populations en difficulté dans la prise en charge de la délinquance. On continue d'avoir de nombreux délinquants auteurs d'infractions à caractère sexuel qui ont été mis en lumière à un moment donné, qui le sont moins maintenant et qui constituent une des priorités de nos prises en charge aussi.
Et ce qui m'ennuie, c'est qu'à un moment donné, on focalise, parce qu'il y a eu des attentats sur ces gens-là, qu'à un moment donné, on stigmatise aussi des personnes. Et j'ai essayé d'alerter aussi mes collègues sur le fait que ça pourrait être contre-productif et qu'il fallait être vraiment très attentif. Et certes, il y a l'état d'urgence. Mais en même temps, nous, dans les SPIP, on a vraiment une mission aussi d'accompagnement, pas que de contrôle. Et je pense que dans nos métiers, c'est essentiel à un moment donné d'aller accrocher cette humanité, d'y mettre la sienne, pour pouvoir rappeler que ces gens-là ne sont pas qu'une infraction, que quelqu'un de pisté, de contrôlé, mais aussi un être humain qui a des capacités et aussi des capacités de résilience, de désistance, et du coup quelque chose qui laisse de l'espoir aussi, et de se dire que voilà, tout n'est pas perdu.
La radicalisation, l'embrigadement djihadiste, les départs en Syrie et les retours sont encore des phénomènes trop récents pour y plaquer des remèdes miracles absolus. Aucun pays n'a encore suffisamment de recul pour dire avec certitude ce qui fonctionne vraiment. Mais tous les États européens n'ont pas retenu la même approche. Assiem Al-Difraoui, politologue, spécialiste de l'islam et du djihadisme.
La France, pour pas contaminer de détenus qui peuvent être d'origine musulmane, donc un pourcentage plus élevé qu'en Angleterre ou en Allemagne, a créé ces quartiers fermés pour djihadistes, qui apparemment représentent l'avantage que ces gens, ils peuvent être mieux supervisés, mieux contrôlés, et ils vont pas infecter avec leur idéologie très dangereuse les autres détenus. Mais moi, je me pose la seule question que tous les autres pays, ils ont choisi une autre approche, sauf peut-être l'Arabie Saoudite, à savoir un tutorat, un mentorat individuel des détenus. Cette mentorat a l'avantage que il n'y a pas le risque de la sur-radicalisation dans un groupe. Il suffit d'une personne, d'un groupe, un leader charismatique, pour vraiment radicaliser les détenus encore plus. Là, il y a un psychologue qui travaille beaucoup dans la prison qui me disait aussi autre chose. Au niveau des autres détenus, les djihadistes sont en train d'acquérir un statut plus élevé, à savoir d'être dans un quartier fermé et dédié, créer dans les yeux des autres détenus une espèce de statut de caïd, donc admiré comme caïd. Donc, moi, je dis même pas qu'il faut pas faire de quartier dédié, mais il faut être très conscient du risque. Et il faut vraiment débattre ça publiquement. Il faut aussi débattre publiquement. Le centre de des déradicalisations où les gens se portent soi-disant volontaires pour suivre un programme de réintégration de la société. Jusqu'à maintenant, c'est relativement opaque, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire là-bas. Et il faut vraiment écarter les risques de faire de ces centres des espèces de Jihad Academy. Il n'existe zéro alternative à la déradicalisation. On ne va pas s'amuser à faire des camps comme Guantanamo ici. La plupart des jeunes djihadistes vont sortir de prison. Donc il vaut mieux être sûr qu'ils ont déradicalisé. Et là encore, en effet, il y a un problème de ressources parce que c'est très coûteux. Normalement, puisqu'il y a la déradicalisation et pas l'inversion de la radicalisation, donc, mais c'est vraiment changer la trajectoire d'une personne, de l'amener vers autre chose, de préférence dans la vraie intégration de la société. Donc là, il faut traiter toutes les causes du djihadisme qui peuvent être psychologiques, socio-économiques, idéologiques, quêtes spirituelles. Donc il faut s'attaquer à tout ça à la fois avec des personnels qualifiés. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Donc pour déradicaliser une personne, vous avez besoin d'un travailleur social, un psychologue, quelqu'un qui s'occupe des aspects idéologiques, quelqu'un qui, si la personne est dans une quête spirituelle, l'aide à trouver quelque chose pour sa quête spirituelle. Donc, mais tout ça doit être débattu publiquement. Les autres pays suivent ce genre de démarche individuelle. Ça va être difficile. Il faut mettre vraiment carte sur table, impliquer tous les acteurs partout en France, amener plus de l'expertise à l'extérieur. Très intéressant, c'est par exemple que le gouvernement français, il semble avoir fait un grand revirement pour la première fois, quelque chose pour laquelle on militait depuis très longtemps. C'est par exemple le suivi spirituel, à savoir que ces jeunes ont l'accès à un imam. C'est clair que la France est une république laïque. Moi, je suis très content de la laïcité, mais il faut quand même débattre quels moyens on peut mettre en place pour qu'il y ait un suivi spirituel pour des détenus qu'on demande ou pour des gens qui sont en centre d'éradication.
Pour revenir juste sur la question du tutorat ou du mentorat dont vous parliez notamment pour l'Allemagne, ça fait partie de ce que vous pouvez considérer comme une bonne pratique, comme quelque chose qui va vers quelque chose de constructif?
Oui, le Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays européens s'accordent que le tutorat, donc le mentorat, est une bonne pratique, préférable à mettre les djihadistes ensemble. C'est pas une garantie non plus. Il faut suivre des démarches souvent très originales. Le tutorat doit être vraiment fait sur mesure. Il faut surtout trouver des tuteurs crédibles aux yeux des détenus, savoir quelqu'un qui sont acceptables. Hier, je parlais longuement avec un tuteur en Allemagne qui m'a encore réexpliqué les problèmes de crédibilité. Lui, il a une grande crédibilité parce qu'il a les mêmes origines socioculturelles que beaucoup de détenus. Il maîtrise le code de l'islam. En même temps, il est sociologue. Donc, il arrive à établir ses rapports. Et encore, il n'y a pas des recettes miracles. En Angleterre, il y a un jeune qui marche très bien, qui m'a toujours fasciné parce que c'est pas quelqu'un qui a une grande connaissance de l'idéologie djihadiste, mais surtout c'est un champion des arts martiaux. Donc lui, il arrive à atteindre spécialement un certain caïd de l'Est londonien par le sport. Et lui dire, si vous avez un problème d'agression, si vous voulez changer quelque chose, venez, je vais vous entraîner, on va se battre. Donc il n'y a pas de recette miracle, il faut regarder toutes ces initiatives très individuellement. Il faut une multitude des initiatives, mais il faut surtout discuter les différentes initiatives très ouvertement.
Les anciens djihadistes ont une place dans ce dispositif?
Oui, oui. Les anciens djihadistes ont clairement une place dans ce dispositif. Oui, parce que surtout les djihadistes de première génération, donc qui ont combattu contre les soviétiques en Afghanistan, ils ont une grande influence. Ils peuvent réfuter tous ces dérives-là d'aujourd'hui. Ils peuvent aussi critiquer le djihadisme en soi. Et donc ça, c'est très important. Mais ça, c'est une partie des dispositifs. Après, il y a des dispositifs de la réintégration classique, travailleurs sociaux, activités et tout ça. Donc, dans le dispositif de la déradicalisation, tous les travaux de réintégration, réhabilitation classique ont leur place également.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Radicalisation en prison, les clés de la détection. C'est un reportage signé Florence Thurm, réalisé par Annie Brault. Nous sommes toujours avec nos deux invités. David Valla, qui a été condamné pour lien avec une entreprise terroriste à 6 ans de prison. C'était en 1995 que vous avez été arrêté, monsieur. Et nous sommes aussi avec Géraldine Blin, qui est directrice du projet de lutte contre la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire. Une première question pour vous, madame. On vient d'entendre entendre une critique sur l'idée qu'on regroupait en France finalement les individus les plus radicaux ou qu'on allait le faire dans ces nouvelles cellules qui sont créées. Est-ce que, en tant que membre de l'administration pénitentiaire, vous trouvez que c'est une bonne idée finalement de créer ces unités ?
Bah écoutez, ça a été un parti pris qui a été choisi en fait l'année dernière. Alors d'abord par le Premier ministre. Alors c'est vrai que pour l'instant ils étaient disséminés dans les détentions. Et là on parle des détenus qui sont prévenus ou condamnés pour des faits de terrorisme. Donc le choix a été fait d'expérimenter des unités dédiées. Alors au contraire de l'expérience qui a été faite à Fresnes où c'était vraiment peut-être une mesure simplement de police interne pour éviter le prosélytisme et protéger les plus faibles, on va dire. Là, on est sur une vraie idée de produire en fait une évaluation et un accompagnement adapté à ce public et surtout l'idée que le passage en unité dédiée ne dure qu'un temps, c'est un temps de la détention, donc ils n'ont pas vocation à y rester pendant toute leur peine et l'idée c'est vraiment de débuter la détention en produisant une évaluation sur quelques semaines et puis le cas échéant les envoyant dans des unités où il y aura des prises en charge adaptée.
On va parler bien sûr évidemment de ces différents parcours, mais peut-être d'abord une question à David Valla avant d'évoquer votre parcours à vous, sur cette idée de regrouper des gens qui seraient pas forcément les plus prosélytes, mais bon qui ont quand même probablement une tendance à vouloir se radicaliser. Est-ce que ça peut les aider d'après vous ?
Mon expérience de l'effet de groupe dirait le contraire. Exactement le contraire. On ne peut pas se... Alors ce terme me dérange. Je préfère parler de démobilisation. C'est un peu le contre-champ à la citoyenneté. On mobilisait les citoyens pour aller se battre. Aujourd'hui, on démobilise nos citoyens pour les mobiliser à un combat qui n'est pas le leur ni le nôtre. Donc, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. J'aimerais rebondir également sur le fait que, avec ce statut particulier, ils jouissent aux yeux des autres détenus d'une aura supplémentaire, dont on n'a pas besoin de les gratifier. Donc, je ne pense pas que ça aille réellement dans le bon sens, à très court terme. C'est une réponse efficace contre le prosélytisme. À moyen et à long terme, ce sera parfaitement contre-productif. Nous avons les exemples aujourd'hui. Nous savons que l'état-major complet de Daesh s'est rencontré en détention. Il ne faut surtout pas que nos lieux de détention deviennent les éléments d'un réseau qui se constituerait à l'extérieur. Et on ne peut faciliter cela qu'en les regroupant entre eux. Si nous les dispersons, ils ne pourront pas se retrouver à l'extérieur puisque ne se seront pas connus.
Ils ne se seront même pas connus. Oui, une question de Florence.
Oui, surtout qu'on a parlé déjà du statut, de l'aura aussi que peut représenter le djihadiste qui arrive en prison. Vous-même, vous aviez été accueilli comment en détention ?
C'est un peu le Robin des Bois de service. D'ailleurs, les journalistes ont une très grande responsabilité. Quand on renvoie un vocable magique et merveilleux s'agissant de dire que ce sont des gens capables de mourir l'arme à la main, faudrait peut-être avant tout préciser que ce sont des gens capables de nous tuer. C'est leur seul objectif. C'est-à-dire qu'il y a la solution, je vais rejoindre Madame Blin sur son avis, ne peut être que collégiale. Un individu ou une procédure ne viendra pas à bout de ce problème. En revanche, il y a des erreurs que l'on peut éviter de faire, notamment au niveau du vocabulaire.
J'avais envie qu'on vous présente quand même un tout petit peu David Valla, quand même pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, dire en quelques mots votre parcours, parce que c'est important de rappeler que vous avez donc été condamné en 1995, à ce moment-là, pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais que vous n'avez pas de sang sur les mains, que vous avez arrêté de fréquenter le réseau de Khaled Kelkal, puisque c'était à l'époque des attentats de Paris, avant que les premières bombes soient posées, mais que vous avez quand même été condamné et que vous avez quand même fait de la prison. À l'époque, quand vous vous êtes rapproché du GIA, c'était après être passé par l'Afghanistan et c'était aussi après avoir tenté de vous enrôler en Bosnie parce que vous vous êtes radicalisé très jeune, vous êtes converti à l'islam et puisqu'on parle de radicalisation, on aurait voulu vous demander avec Florence Turm ce qui chez vous avait été l'élément déclencheur de votre radicalisation.
Le terrain, tout simplement. Je vais en Bosnie pour des raisons droits de l'homiste, pour faire simple. On me fait voir à 15 ans le film Nuit et brouillard, avec l'injonction appuyée, plus jamais ça. Donc moi, je valide tout manichéen que je suis à cet âge-là. Et je vois à 19 ans que l'histoire a le hoquet. Alors, ce ne sont pas mes convictions musulmanes ou religieuses qui m'incitent à y aller. En revanche, sur place, les conditions sont telles que vous comprenez vite que votre vie ne tient qu'à la décision du directeur d'un checkpoint ou d'un responsable de commissariat. Ma vie s'est même retrouvée entre les mains d'un dentiste à un moment, scalpel à la main. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez y passer très rapidement et vous avez besoin de vous raccrocher à une idéologie qui fait abstraction de la notion de la mort. On vous donne un truc qui vous permet de la sublimer. Donc quelque part, vous la cherchez plutôt que de la fuir. Et ça vous fait devenir quelqu'un qui n'a peur d'aucun adversaire.
C'est-à-dire qu'à l'époque, vous auriez dit que vous étiez prêt à mourir en martyr ?
À mourir ? C'est exactement ce vers quoi vous tend cette idéologie. Mais le contre-champ, quand vous décidez de mourir martyr, ça sous-entend que vous décidez de tuer les autres. C'est vraiment ça.
Juste encore une question pour vous avant peut-être d'élargir le débat. Les djihadistes d'aujourd'hui sont-ils les mêmes qu'hier ? Ces mécanismes que vous décrivez sont-ils les mêmes ?
L'idéologie est la même. Le paradigme a changé. Avant, il fallait avoir la volonté d'accéder aux discours et aux images. Aujourd'hui, celle-ci s'invite chez vous par le biais d'Internet. Donc c'est le seul changement notable. Mais l'idéologie est la même. C'est l'idéologie wahhabite.
On a bien compris que vous ne vous étiez pas radicalisé en prison, même. Hein, on va même parler de la déradicalisation. Voilà, exactement. Vous allez pouvoir nous expliquer. Mais Madame Blin, comment justement voit-on aujourd'hui qui est susceptible de se radicaliser parmi les détenus et quels sont, d'après vous, les réseaux qui font entrer cette propagande wahhabite qui, malgré tout, arrive en prison ?
Alors, la détection se fait, elle ne se fait plus comme avant sur des grilles assez simples où on avait une lecture de comportement, d'une pratique religieuse rigoriste, on va dire, et automatiquement il y avait une forme d'étiquetage. Désormais, on est plus sur une méthode en fait de détection en commun. Je pense que là, les différents professionnels que vous avez interrogés l'ont bien dit. On essaye de croiser tout un tas d'indicateurs, tout un tas de signaux faibles ou forts en fait, et puis on essaye de repérer ceux qui sont vulnérables, perméables à un discours radical qui pourrait rentrer dans cette voie très facilement.
Mais ce discours, il arrive par qui ? C'est ça ma question en fait.
Le discours, il arrive parce que on a des individus qui sont de vrais idéologues en fait en prison. Ils se diffusent sur la cour de promenade, en fait, sur les lieux de socialisation qu'on a dans nos prisons, qui sont principalement en fait la cour de promenade pour des jeunes détenus dans des contextes de surpopulation comme on peut avoir dans certaines maisons d'arrêt. C'est sûr que ils sont dans une forme d'oisiveté. Finalement, le seul lieu où ils ont des débats, des discussions, c'est la cour de promenade. Et il suffit qu'ils soient en contact finalement avec une personne qui exerce une emprise, une domination, et ça peut fonctionner.
Une question de Florence. Les imams autoproclamés, ouais, finalement plus forts que les aumôniers musulmans.
Oui, c'est sûr que certains se montrent extrêmement forts hein, dans ce phénomène d'emprise finalement qu'ils peuvent exercer sur les autres. Mais c'est après des phénomènes qu'on connaît, qui s'exercent depuis longtemps sous forme de caïda, par exemple en détention. Sauf que là, c'est une nouvelle forme finalement de caïda.
Alors à tel point que dans le film que vous avez mis en scène à l'ENAP, on voit aussi apparaître un détenu qui, lui, pour avoir une certaine paix sociale en prison, finalement joue à faire les prières alors qu'il n'en a rien à faire. Mais comme ça, on le laisse tranquille, on a l'impression, et de la part de l'administration, et de la part de ses co-détenus. Et puis une fois qu'il est sorti, on oublie tout.
Oui, c'est des postures qu'on retrouve, hein, c'est-à-dire l'adhésion de circonstances pour vivre une détention calme, en fait, je dirais. C'est vraiment la volonté de se fondre aussi dans la masse, c'est-à-dire de...
Oui, voilà. Jusqu'où va la pression, David Valla, en prison vis-à-vis des détenus qui ne seraient pas finalement aussi bons musulmans, puisque là on parle de la religion musulmane, que les autres ?
Elle est quasiment inexistante provenant des autres détenus. La pression, elle est carcérale, judiciaire, familiale, sociale, éducative. C'est-à-dire que les personnes qui se perçoivent comme victimes du système ont déjà fait la moitié du chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas réellement de pression ou de coercition. D'ailleurs, l'un des fondements du recrutement, entre guillemets, c'est d'obtenir l'adhésion du candidat. Parce que s'il faut le surveiller comme le lait sur le feu, c'est pas intéressant. C'est, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un autre aspect des choses. La raison pour laquelle nous avons peut-être, j'utilise le conditionnel, nous aurions peut-être plus de profils prêts à verser dans cette idéologie, c'est parce qu'ils représentent trois avantages, mais qui s'accompagnent également des défauts qui vont avec. Le premier avantage, c'est que nous avons affaire à un public qui est déjà en forme de rupture avec la société ou avec la famille ou avec un tas de choses. Ils sont déjà dans le chemin de la transgression. Donc, ils n'ont plus cette peur de franchir la loi par la ligne par-delà la loi. Et ils ont la troisième faculté intéressante pour les recruteurs, un accès facilité à la violence. Mais en dehors de ça, nous avons un lien qui est prouvé socialement. Il y a une vraie concomitance entre le niveau d'éducation et le milieu carcéral. C'est-à-dire que plus vous vous élevez dans la société des gens diplômés, et moins vous retrouverez ces profils-là en détention.
Non, donc, en revanche, chez les terroristes, ce n'est pas forcément évident. Enfin, en tout cas, à l'échelle planétaire, il y a pas mal de terroristes qui ont des bonnes formations. Il y en a pas mal, mais
Si on parle d'un recruteur qui entendrait recruter parmi les détenus, il n'aurait jamais perdu de vue qu'il n'a pas affaire au gratin de la société. Qui plus est, le fait qu'il soit ici prouve qu'il est mauvais dans son domaine, puisque un cambrioleur qui est en prison, c'est un mauvais cambrioleur.
On va parler de la déradicalisation maintenant. Peut-être que Florence, vous vouliez poser une question dans ce sens-là.
Très précisément, j'allais vous demander si c'est le savoir qui vous a sauvé.
En partie, il y a également quelque chose de très important. J'aimerais insister là-dessus. Je me suis rendu compte que j'ai été jugé avec des lois existantes, pas des lois d'exception. J'ai été incarcéré sous le régime des droits communs. On m'a attribué un avocat commis d'office qui s'est trouvé très investi par le dossier, l'a défendu bec et ongle. J'ai eu droit à la scolarisation, les peu de diplômes que j'ai, je les ai obtenus en détention. C'est-à-dire que ce qui m'a réconcilié avec ma citoyenneté a été le traitement que l'on m'a réservé, parce que j'ai vite compris que le sort qui m'était réservé par ceux que je considérais être mes adversaires était bien plus enviable que celui qui était réservé à ceux que nous considérions comme nos ennemis. C'est-à-dire que j'ai quand même vu que, malgré ma posture d'adversité ou belliqueuse, on ne m'a pas traité en dehors du champ de l'humanité. C'est vraiment très important. C'est un fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue. Et il y a également la lecture en mode intensif. Alors, au départ, c'est pour contrecarrer l'interdiction de la pénitentiaire qui ne veut pas que vous puissiez emprunter plus de 2 livres par semaine selon les établissements. Ouais. Donc, on me dit 2 livres par semaine, je m'impose 2 livres par jour. Voilà.
Mais vous avez pu les trouver, du coup?
Alors, je demandais à mes amis de récupérer les bouquins qui m'intéressaient. Et moi, je prenais Astérix et Obélix parce que je savais que la liste des livres empruntés arrivait dans le bureau du directeur. Donc, c'était un peu pour brouiller les pistes. Mais au départ, c'est vraiment pour contrecarrer une interdiction. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'ai été agi de ce que je lisais. Ça m'a permis de revoir mon logiciel de vision du monde. Et j'en arrive à la conclusion, au bout de cette lecture, que tous les êtres humains cherche à répondre à des questions existentielles, alors en adoptant une foi ou pas, mais au moins se positionnent sur ces questions-là, et veulent que leurs enfants aient une meilleure vie qu'eux. Ça se résume à ça, réellement. Et pourquoi se tuer ou s'entretuer pour des questions de détail autour de tout ça?
Alors, Madame Blin, en ce moment, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours pour arriver justement à cette déradicalisation, on va continuer à employer ce terme, que Monsieur Vallat a réussi à mettre en place lui-même finalement, hein, en faisant un travail sur lui-même. Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place et d'après vous, qu'est-ce qui va véritablement être efficace? On a compris qu'il y avait tout un profil de croisés, de différents experts qui interviendront, mais comment est-ce que vous voyez véritablement le message qui va être adressé à ces délinquants?
Il y a deux sortes vraiment de programmes qui sont en train d'être développés. On a des programmes de prévention qui s'adressent là à des détenus vraiment prévenus ou condamnés pour des faits de droit commun. Ceux dont je parlais tout à l'heure qui sont perméables peut-être à un discours radical. Et puis après, on a des programmes vraiment de prise en charge et comme ça a été dit dans le reportage, de désengagement de la violence, puisque c'est c'est bien à ça qu'on s'attache. Nous, notre mission de prévention de la récidive, c'est de prévenir des nouveaux passages à l'acte violent qui seraient fondés sur un motif en fait religieux ou politique. On ne s'intéresse pas, si vous voulez, directement au système de croyance de la personne. Ce qu'on veut éviter, c'est le basculement dans la violence. Donc toutes les prises en charge qu'on développe, elles sont vraiment fondées sur ce point-là en particulier. Après, tel que ça a été dit, hein, c'est vrai qu'on a, on travaille avec des éducateurs, des psychologues, on travaille avec des intervenants très spécialisés, y compris sur le champ confessionnel, parce qu'on a besoin de pouvoir parler de l'islam ou des islams, comme ça a été dit. Voilà, enfin, tout un tas d'intervenants qui interviennent dans un accompagnement extrêmement serré.
Mais alors, qui sont les personnes les plus légitimes pour s'adresser aux détenus en question, les spécialistes dont vous parlez, ou les gens comme David Valla?
Eh bien, les deux, en fait. Mmh. On a vraiment le souci de faire appel aussi à des, ce qu'on appelle, nous, des repentis. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
Vous ne l'aimez pas.
Non, parce qu'il induit l'auditeur à vouloir accorder le pardon.
Oui.
Alors que je ne le demande à personne. J'ai payé ma dette. Hein. Je suis quitte de ce que je devais à mon pays. Mais le mot repenti, quelque part, entraîne l'auditeur dans un terrain qui n'est pas celui où nous voulons l'emmener, à savoir celui de la réflexion, parce que le repentir est l'autre versant du pardon accordé. L'un ne va pas sans l'autre.
En tout cas, ce qui touche les détenus, c'est le témoignage, finalement, qui peut être donné par des personnes qui ont eu le même parcours qu'eux, auxquels ils peuvent s'identifier, ou bien des victimes aussi, y compris des familles dont les proches, en fait, sont partis en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Je pense que c'est ces histoires de vie hein, qui les saisissent et qui sont intéressantes, en fait, et qui permettent de travailler sur la dimension émotionnelle.
On voulait terminer en posant une question véritablement presque politiquement incorrecte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont irrécupérables en ce moment parmi tous ces gens qui sont tentés par le djihad, qui parfois sont allés sur le terrain en Syrie, qui parfois sont revenus? Alors on parle pas des poseurs de bombes, mais on peut aussi parler des poseurs de bombes, c'est-à-dire que faudra-t-il faire et que faut-il faire de ces gens qui sont terroristes?
Alors c'est la question de fond, s'agissant de l'incrimination des peines de ces profils. En réalité, nous en sommes là. Nous ne savons pas ce qu'il en sera d'ici 10 à 15 ans de ces profils. Et tous les magistrats de France sont en attente d'un corpus pénal qui leur permette de répondre efficacement. Ce sont de bons techniciens en termes de droit, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'outil qui satisfera à la demande. Et là, nous sommes sur une question fondamentale. Sommes-nous en capacité de récupérer une partie de cette jeunesse qu'on nous a volée, ou devons-nous, et ce serait un échec terrible, reconnaître que cette idéologie est un Rubicon qui, lorsqu'il est franchi, ne permet
plus
pas de revenir.
En voilà. C'est une vraie question, Madame Blin.
Ah, moi, je crois qu'on, quand on fait ce métier de pénitentiaire, on a toujours foi en l'avenir. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est trop tôt pour le dire, dans la mesure où on commence juste à développer des programmes. Ce qui est certain, c'est que pour certains d'entre eux, il faudra qu'on travaille dans du face à face, en individuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les mettre dans des groupes. Il n'est pas possible de les faire interagir avec d'autres. Et quand on parlait de tutorat, de mentorat, en fait, c'est
peut-être une bonne idée.
Des techniques qu'on va essayer de développer.
Voilà, on aura l'occasion de refaire une émission dans quelques mois pour savoir comment vont ces jeunes que vous tentez de déradicaliser. Merci beaucoup Géraldine Blin, merci d'être venue ici en studio. Merci à David Valla de nous avoir parlé à cœur ouvert de votre riche expérience pour ce magazine de la rédaction réalisé par Annie Bro. Le reportage a été signé Florence Thurm. Merci Florence. À la prise de son avec vous Florence, il y avait Patrice Klein et ce soir à la technique Thibaut Germez. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur notre site franceculture.fr.